RFI.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International sur RFI, bien entendu. Et comme chaque jour, nous évoquerons aujourd'hui un nouveau venu au palmarès du Ballon d'Or, le premier Croate à être distingué, le septième joueur aussi du Real Madrid, à succéder au tandem Cristiano Ronaldo, Messi. Luka Modric ne boudait pas son plaisir hier soir, trophée en main, lui déjà meilleur joueur européen, meilleur joueur FIFA et meilleur de la Coupe du Monde, sous le regard des champions du monde français, à la fois heureux pour lui et un peu frustré pour eux. La CAN 2019 doit encore trouver son pays organisateur. Il reste 6 mois à la CAF pour le désigner. Mais on sait déjà où se joueront les suivantes. Le Cameroun accueillera la CAN 2021 et la Côte d'Ivoire, celle de 2023. Décision du comité exécutif de la CAF, a déclaré hier le président Hamad. À Abidjan, on s'interroge, on se montre très surpris. Et vous entendrez le ministre des Sports, Paulin Danon. Le Barça de retour sur la première marche de la Liga. Les Blaugrana ont gagné grâce notamment à un très bon jeune joueur un peu décrié, Ousmane Dembélé, qui a de la ressource. Et nous en parlerons et bien notamment avec vous, Chérif Guémour, bonjour.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Notre camarade de SoFoot, il y a aussi Jean-Philippe Bouchard des éditions Solar. Ça rime, bonjour. Oui,
bonjour Annie, bonjour à tous.
Et puis à vos côtés, Habib Bey. Bonjour Habib.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous n'avez pas amené votre petit ballon d'or?
Non, je ne l'ai pas. J'ai jamais eu la chance de le gagner.
Olivier Pron, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous arrivez d'Afrique avec plein de nouvelles.
Ouais, et un petit ballon d'or du cœur pour Habib Bey.
Ah, bah alors, bah,
c'est gentil.
Nous, il l'a gagné depuis longtemps. Radio Foot, c'est parti.
Mesdames et messieurs, voici le Ballon d'Or France Football 2018. Je vous demande de faire un triomphe à monsieur Luka Modric.
Bonsoir à tous. It's a unique feeling. I'm happy, proud and honored.
I have sensational
emotions at the moment.
Des émotions extraordinaires
that is really
en ce moment.
Hard to describe by the words.
C'est vraiment difficile à mettre en mots.
Me. As a kid, we all have dreams. My dream
quand on est enfant, on a toujours des rêves. Et moi, mon rêve, c'était de jouer dans un grand club, de remporter de beaux trophées, et j'en ai rêvé. Et le Ballon d'Or, c'était tout ce dont je pouvais rêver en tant qu'enfant. C'est véritablement un honneur pour moi que de brandir ce trophée ce soir.
La volée de Luka Modric, le talent ne s'explique pas.
Cristiano Modric. Oh, it's wonderful from the Croatian.
Look at this movement, look at the skill.
Un petit Mozart du ballon rond incarne donc la relève. Luka Modric qui vient d'interrompre les 10 années d'alternance entre les incomparables Cristiano Ronaldo et Messi. Ce n'est pas un homme de statistiques, mais plutôt un chef d'orchestre, un compositeur doué, celui qui donne le « là » dans une équipe. Et à 33 ans, Luka Modric est donc à la baguette au Real Madrid, dans la sélection croate aussi, qui est donc vice-championne du monde. Le Real, je vous le rappelle, champion d'Europe. Un vainqueur digne de succéder pour vous à ce mano à mano auquel on s'était habitué, même peut-être un peu lassé, qui était celui entre Cristiano et Messi, Habib Bey.
Oui, pour moi, c'est amplement mérité. C'est un joueur qui, comme on l'a dit, a fait preuve d'une qualité immense au sein du Real Madrid. À la Coupe du Monde, il a été élu meilleur joueur, vous l'avez dit, joueur FIFA, joueur européen de l'année. Donc, il est tout à fait logique qu'il remporte le Ballon d'Or. On parle beaucoup de statistiques, mais une statistique qu'on donne pas, c'est l'avant-dernière passe. On se rend pas compte, mais cette avant-dernière passe, elle crée le décalage, elle donne du temps aussi aux autres. Et qu'aujourd'hui, elle n'est pas valorisée, mais c'est lui aussi qui crée ce décalage et qui permet aux autres de briller. Donc, aujourd'hui, on s'attend à ce qu'il marque des buts, on s'attend à ce qu'il ait des passes décisives, mais c'est pas ça. C'est un milieu qui est est assez reculé sur le terrain et qui fait jouer les autres. Et lorsqu'il fait jouer les autres, c'est assez exceptionnel. C'est pour ça qu'on l'appelle le Mozart du football. Et qu'aujourd'hui, au vu de sa saison, il était tout à fait logique qu'il le remporte.
Jean-Philippe, c'est l'homme de l'ombre, mais c'est pas seulement l'homme de l'ombre, parce que quand on regarde un match, ne serait-ce que durant la Coupe du Monde, la Croatie, mais aussi du Real Madrid, on le voit et on l'admire, Luka Modric.
C'est vrai que de toute façon, il est héritier de trois ou quatre Ligues des Champions déjà qui ont précédé. Donc ça aussi, ça compte dans le vote. Hein. C'est-à-dire qu'il s'est installé à la tête du football européen. Et puis son jeu a de plus en plus été décrypté. On a vu à quel point l'équipe était dépendante de lui, à la fois son club. On a bien vu le Real quand il était blessé il y a 18 mois, à quel point ça piochait. Et puis effectivement, avec une petite équipe nationale quand même, il faut le dire. Ce qui est, au moins en termes de...
Petite nation, mais grande tradition.
Oui, mais même en termes de démographie. C'est-à-dire que la Croatie, c'est un petit pays en termes de démographie.
Et grand pays de sport, quand même, en Croatie.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est un pays très sportif avec une grande tradition. C'est des techniciens. Enfin, il y a plein de sports où ils sont très forts, évidemment, hein, et pas qu'en tennis.
Tous les sports collectifs.
Basket, hand.
Voilà. Donc il y a une grosse tradition sportive qui est celle des ex-pays de Yougoslavie. Voilà, ça c'est vrai. Ils sont héritiers de ça. Mais quand même, il n'y a pas un vivier colossal. Et il a réussi à attirer cette équipe. Quasi au maximum, parce que franchement, la première mi-temps de la Coupe du Monde, la France faisait. C'est pas fière allure.
Chérif, vous qui aimez le beau football et vous qui aimez le hein,
j'aime le football moche aussi.
Oui, mais vous l'admirateur de Cruyff et de ce football
des
années 70. Justement, vous devez trouver une satisfaction dans la récompense enfin d'un joueur qui est pas seulement quelqu'un qui met 50 buts dans l'année, qui est pas seulement quelqu'un aussi de très bling bling, même s'il est dans un grand club, et ça a forcément compté au moment de voter.
Il y a deux choses. D'abord, c'est un peu le ballon d'or virtuel de Xavi et Iniesta, qui aurait mérité 10 000 fois de l'avoir. Ils ne l'ont pas eu.
Il a pensé à eux, d'ailleurs. Enfin, il a pensé à Iniesta.
C'est logique. Hein. C'est pour ça que je dis ballon d'or virtuel. Enfin, il a été récompensé un peu à leur place. Et deuxièmement, en football, très rares sont les joueurs qui peuvent dire à leur partenaire « Si tu sais pas quoi faire du ballon, tu me le donnes, je saurai quoi en faire. » Et il fait partie de ces... Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a un Pirlo, il y a Modric, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et Habib ne va pas me contredire. Et le gars, sous pression, il est toujours là, il réclame le ballon, il prend ses responsabilités, dos au jeu, face au jeu, à droite, à gauche, dans l'axe.
Et il bonifie.
Il bonifie le ballon. Il ressort toujours le ballon comme il faut.
C'est la formule classique, hein, le mauvais ballon, il le rend propre, quoi.
Oui, voilà, et puis on parlait de Cruyff, il faut se rappeler que ces gens-là étaient appelés les maîtres du temps, c'est-à-dire que c'est eux qui décident de
Super
quel rythme,
voilà,
du quel rythme on met au match. Donc voilà. Modric, il est capable de l'accélérer, le match, et il est capable aussi de temporiser et de mettre un petit peu le pied sur le ballon lorsque vous avez besoin de souffler. Et lorsqu'on voit la campagne de Ligue des Champions du Real Madrid, on peut dire ce qu'on veut. Il y avait tous ces joueurs-là, il y avait Ronaldo, il y avait Gareth Bale, il y avait Benzema. Il y avait Casemiro, il y avait Toni Kroos, mais celui qui a ébloui tout le monde, moi je me rappelle d'un tweet pendant la Coupe du Monde contre l'Argentine, où avant qu'il marque ce but fantastique, cette frappe enroulée pied droit, je dis mais j'ai énormément d'amour pour le jeu de Luka Modric, c'est des petits extérieurs du pied, c'est Messi en face, hein, c'est pas n'importe qui, et ce jour-là il surclasse l'Argentine à lui tout seul. Et ça rend un petit peu légitime, même qu'il ait ce trophée au vu de sa saison. Ce joueur-là a surclassé cette Coupe du Monde jusqu'à la finale, même s'il ne l'a pas gagné, et ça reste un trophée manqué pour lui.
Il y a aussi une dimension extraordinaire, c'est la caisse qu'il a, le physique. C'est-à-dire que bon, il a joué les prolongations, parce que bon, l'équipe de Croatie a pas mal pioché.
Ont joué beaucoup de
un match de plus que l'équipe de France sur la Coupe du Monde, puisqu'ils ont joué trois prolongations de
et il les a joués. Mm-hmm. Il est allé jusqu'au bout, et à 33 ans, je sais pas comment il fait. Mais il y a pas de suspicion, hein, je veux dire, c'est plus touffant.
Olivier, vous l'avez vu aussi plutôt triste et en pleurs, parce que le soir de la finale, notamment au Loujniki, il est certes le meilleur joueur de la compétition, mais il en voudrait presque pas de ce trophée.
Moi j'ai l'impression qu'il savait, il se doutait, alors peut-être Habib sera pas d'accord, quand on est champion on y va au bout, mais je pense qu'il se savait quand même cuit les Croates, et qu'il savait bien qu'il fallait ça allait se jouer sur la première mi-temps sans doute, et qu'après ce serait très compliqué. Mais il a été tellement éblouissant. Moi je suis d'accord avec Habib, il peut toujours y avoir des esprits chagrins, pourquoi pas un Français, on va avoir l'occasion d'en reparler, ils sont champions du monde, les Français sont champions du monde en équipe, Luka Modric est le moteur de son équipe, il fait une saison exceptionnelle à titre individuel, le ballon d'or est une récompense individuelle, il y a rien à dire, il gagne avec une avance quand même considérable, 753 points, c'est un peu plus du quart des votes, 26% des points attribués lui sont attribués.
Largement.
Le deuxième est 476 points, Ronaldo, Mbappé troisième 414. Donc il y a pas photo et c'est très logique.
Luka Modric, encensé, respecté donc en Europe où il est entré par la Première Ligue et le club londonien de Tottenham, peut-être grâce à ce match.
Pusno, tamo se može proći, Luka je fino odigrao ovu akciju, pogledajmo još jednom.
Voilà, c'était un match en 2006, Dinamo Zagreb contre Arsenal, et c'était en Ligue des Champions. Évidemment, c'est, on le sait aussi, l'occasion. Abby, je vous vois s'ouvrir, mais c'est vrai que la Ligue des Champions permet ça aussi de découvrir. Alors, en plus, dans des clubs qui sont pas forcément habitués, encore que Dinamo Zagreb le fut, disons dans le passé. Mais en tout cas, ce joueur, souvent surnommé, vous le savez, le Petit Prince, il n'a pas la même image dans son pays. Jean-Philippe Bouchard, il a été mêlé à des histoires pas très clair, pas très honnête non plus. Et finalement, même si la justice vient juste de le blanchir...
Ouais, il vient d'être blanchi aujourd'hui par la justice fiscale.
C'était en instance depuis 2-3 jours.
Après, il y a encore des soucis avec le fisc espagnol.
Voilà, oui, en plus. Mais ça, beaucoup de joueurs en Espagne. La présidente de Croatie aussi qui l'encense. Et finalement, est-ce que ce trophée peut redorer, selon vous, son image dans son propre pays auprès de ses propres supporters? Parce qu'on se souvient qu'ils étaient durs contre lui même pendant la Coupe du Monde.
Ouais, ça, je pense que après la Coupe du Monde, l'image de Modric, elle souffrait plus beaucoup de critiques, y compris.
Ils ont été célébrés en héros. Là-bas.
Ils sont rentrés vraiment, oui, comme ils ont été salués.
Comme s'ils avaient gagné.
Pratiquement comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Donc là-dessus, et tout le monde sait bien, enfin la Croatie sait bien ce qu'elle doit à Modric sur cette Coupe du Monde. Donc je pense que là-dessus, son image n'a plus à souffrir de quoi que ce soit. La seule ombre peut-être au tableau, c'est ces histoires effectivement d'évasion fiscale qui restent en Espagne. Alors c'est un peu un sport un deuxième sport chez les footballeurs professionnels.
Il y a une première division, une deuxième division.
Donc ils sont à peu près tous plus ou moins mêlés, mais quand même quoi. Voilà, c'est parce que je dis ça parce que c'est pas d'un point de vue moral, c'est que c'est l'un des critères du Ballon d'Or quand même. Il y a une question d'exemplarité.
C'est ce qui a coûté cher à Cristiano Ronaldo d'ailleurs.
Voilà, donc là-dessus, c'est vrai que les votants, le jury se prononce aussi sur ce critère-là. C'est à peu près le seul point sur lequel on pourrait avoir un bémol pour Modric.
Oui, parce que ses problèmes, en fait, c'est avec un peu celui qui l'a épaulé, celui qui l'a porté et qui est lié à des affaires pas très honnêtes et un peu louches.
Les problèmes, notamment fiscaux chez les joueurs de foot, viennent quand même rarement du joueur de foot lui-même. Le problème souvent des joueurs de foot, surtout à ce niveau-là, c'est l'entourage, tout ce qui est autour.
Les gens,
pour signer un certain nombre de Neymar. Contrats avec certains d'eux, des contrats littéraires, hein, pas. Je peux vous dire qu'ils voient rarement l'argent eux-mêmes, hein, c'est pas sur leur compte en banque que ça transite, c'est sur ceux de leurs agents.
Avant que ça arrive. En tout cas, le sacre de Modric est aussi donc celui du Real Madrid, 7e joueur, je le disais, de l'effectif distingué, le sacre aussi de la Liga, 22 ballons d'or sur 63 attribués à un joueur qui joue en Espagne. Où sont Alors, la question qu'on pouvait évidemment se demander, et vous l'évoquiez tout à l'heure, Olivier, où sont les champions du monde? Parce que le premier,
bien sûr, Antoine Griezmann, qui est troisième. On aurait pu penser peut-être à une deuxième place pour Antoine Griezmann devant Cristiano Ronaldo. Ça n'aurait pas été usurpé. Après, deuxième ou troisième, ça change pas grand-chose.
La notoriété joue peut-être aussi.
Voilà, hein. Griezmann est troisième, juste devant Kylian Mbappé. Enfin, il y a quand même 70 points d'écart entre les deux hommes. Raphaël Varane, septième. N'Golo Kanté, premier dans tous nos cœurs, est onzième au classement général. Quinzième, Paul Pogba. Et trentième et dernier, Hugo Lloris. À noter que Karim Benzema est le 7e français, mais donc non champion du monde. Il est 17e, il aurait pu être 29e ou dernier. Il y a un vote quand même sur lequel il faut revenir. S'il nous écoute, il est sûrement à l'écoute puisqu'il est en Centrafrique. Le confrère centrafricain, je vous donne son 5 parce que ça vaut le coup quand même. Benzema en 1, Neymar en 2, Salah en 3, pourquoi pas, Cristiano Ronaldo en 4 et Mandzukic en 5. Il est libre de son vote, mais c'est vrai que Benzema en 1, Neymar en 2, et peu de chance quand même même de faire un sans faute.
En tout cas, ces votes, effectivement, se sont peut-être aussi éparpillés autour des Français. C'est ce qu'on peut comprendre. Mais la référence, semble-t-il, ça serait la Ligue des Champions. La Coupe du Monde ne compte-t-elle plus vraiment? Eh bien, en tout cas, Antoine Griezmann l'avait compris avant même la cérémonie. Il avait peut-être eu des informations. Cérémonie suivie par 1,5 million de personnes hier sur la chaîne de télévision L'Équipe.
Peut-être que la Ligue des Champions ou un championnat serait plus important qu'une Coupe du Monde. Donc voilà, mais je pense qu'on ne changerait pas la Coupe du Monde contre le Ballon d'Or.
Ah oui, échanger la Coupe du Monde quand même.
Et Modric a dit lui qu'il échangerait volontiers une Coupe du Monde contre un Ballon d'Or, hein, parce que c'est un sport d'équipe. Juste, bien sûr que le vote pour les Français, il s'est dilué. Si vous, il y a rarement autant de Français qui postulent. On a un Français troisième, un Français quatrième. Vous additionnez leurs points, ils sont au niveau de Modric.
Oui, et puis ce qu'on n'a pas dit, et ce que personne a dit aussi, c'est que les Français n'ont pas ébloui les gens pendant cette Coupe du Monde. Ils ont gagné la Coupe du Monde
en groupe,
mais ils ont gagné la Coupe du Monde sans séduire. C'est-à-dire que si vous aviez une France qui avait marché sur le monde et qui avait été éblouissante du début à la fin, ça aurait marqué les esprits. Il faut jamais oublier que les Français sont champions du monde et c'est exceptionnel. C'est très très bien pour tous ces jeunes joueurs, mais les gens sont sortis de cette Coupe du Monde avec pas un goût amer, mais en disant ouais, ok, ils sont champions du monde, mais ils nous ont pas enflammés. Donc aussi dans l'esprit des gens,
ça a joué, ça a beaucoup joué.
Je pense qu'il y a surtout une surreprésentation de la Ligue des Champions, et on voit quand même elle pèse très lourd dans le vote. Si on regarde
est-ce que c'est pas logique finalement parce que ça dure une saison et la Coupe du Monde dure un mois.
C'est sûrement, mais c'est vrai que la Ligue des Champions, son intérêt, il est quand même en sur les 6 premiers mois de l'année civile, quand même, hein. Les poules pour les clubs qui vont aller au bout, c'est souvent des formalités, et c'est là que se révèlent les plus grands joueurs. Et c'est vrai que si on regarde un peu le classement, on voit que la Ligue des Champions est très très présente, et que le Real, il est
surreprésenté, lui aussi,
il apparaît 11 fois.
Le seul cas, c'est Cannavaro. Le seul cas pour avoir bonifié et un petit peu valorisé cette Coupe du Monde, c'est Cannavaro qui avait gagné le trophée sur un mois de compétition exceptionnelle avec l'Italie.
En 2006.
Après, le reste, ça a toujours été des joueurs qui ont plus ou moins brillé sur cet aspect de la Ligue des Champions.
Alors, Cannavaro qui avait marqué plus de buts que Modric.
Oui.
on l'avait vu d'ailleurs depuis 2010 aussi, Chérif, ça, cette dissociation Coupe du Monde, récompense la même année.
Oui, bien sûr.
C'est justement Messi qui est récompensé.
C'est pas les vainqueurs, ni l'Espagne, ni l'Allemagne. Mais pour en venir à l'importance de la Coupe du Monde, quand on regarde l'équipe de France, enfin à mon sens, si on doit dégager une individualité, parce qu'on l'a souvent dit, c'est d'abord une équipe, un groupe, un collectif. Pour moi, le meilleur, ça a été Loris. Qui va voter pour un gardien de but? Je parle en individualité.
Personne, justement, parce qu'il est 30e avec 0 point, même total qu'Isco, sont les deux qui en ont obtenu.
Donc voilà, si on veut isoler quelqu'un, de toute façon, ça pouvait pas être Pogba. Je parle de Coupe du Monde, Griezmann.
On se souvient de Neuer, hein, de toute façon, Chérif. Voilà. Neuer qui fait une Coupe du Monde.
Ça aurait pas été choquant.
Qui est champion du monde.
Ça aurait pas été choquant, ça l'avait eu en 2004.
En termes de palmarès, pour Griezmann, Buffon l'aurait mérité en 2006.
Zidane, s'il fait pas son Coupe du Monde, c'est Zidane. Il lui était promis, c'est l'évidence.
Griezmann, il remporte une Coupe d'Europe quand même avec son club, c'est quand même pas, c'est pas négligeable. Mais
elle est un cran en dessous.
Il tire les pénaux. Et puis il en a pas 3 ou 4 de suite.
Je pense que de toute façon, ce classement a un sens pour les 4-5 premiers. Après, ça a pas de sens quand vous voyez. Sadio Mané, 23e de ce Ballon d'Or. C'est
les deux Africains.
Justement, parce que le France Football fait ça très bien. Il y a aussi un classement par continent. Et justement, arrêtons-nous sur le vote des Africains. Habib, je sais que ça vous tient à cœur. Parce que Modric a été mis, par exemple, premier sur presque tous les continents. Amérique du Nord, Europe,
79
Asie.
Fois, il arrive en tête.
Mais
un vote sur deux.
Aussi en Afrique, mais surtout après la liste, eh bien, on a Cristiano Ronaldo, on sait qu'il est extrêmement populaire en Afrique, on a Mbappé, Griezmann et Messi. Et pour trouver dans la liste du Ballon d'Or le premier joueur africain, Olivier Pron, eh bien, je vois que vous l'avez souligné en orange.
Oui, moi j'ai mes quatre couleurs, parce que sinon je suis vieux, je vois plus rien. Sixième, Mohamed Salah, ça c'est assez logique, il fait une saison exceptionnelle. Mais Sadio Mané, je suis évidemment d'accord avec Habib, Sadio Mané est 22e ex aequo avec Edinson Cavani, avec Marcelo, le Brésilien du Real. Sadio Mané, c'est vrai que, encore une fois, l'Afrique ne vote pas pour ses enfants, forcément, on peut le constater, c'est bien dommage, c'est pas la première fois qu'on constate
que
l'Afrique
c'est pas la première pas fois.
Il y a eu toujours la première défenseur de son propre football.
Il y a eu des précédents, après ce qu'il faut pas faire, et je déteste faire, c'est la victimisation, cette thèse du complot. Moi, je veux pas y adhérer. Je veux surtout pas m'attarder là-dessus. Par contre, je regarde un petit peu les saisons des uns et des autres, les statistiques. Lorsqu'on voit Sadio Mané, il est buteur en finale de Ligue des Champions. Alors oui, il gagne pas ce trophée. Il est exceptionnel avec Liverpool sur la saison. C'est le deuxième meilleur joueur de cette équipe derrière Mohamed Salah qui avait marqué 32 buts cette saison-là. Il marque autant que Firmino en Ligue des Champions. Et je vois que, par exemple, on a un Sergio Aguero qui n'a été éliminé justement par cette équipe de Liverpool en Ligue des Champions, qui était remplaçant en Coupe du Monde et qui est devant Sadio Mané. Donc je me pose des questions. Je vois que Firmino est également devant Sadio Mané alors qu'il était remplaçant avec le Brésil à la Coupe du Monde. Donc je me pose ces questions-là de me dire, est-ce qu'aujourd'hui, encore une fois, si ces joueurs-là s'appelaient Salahinho ou Manéinho et qu'ils étaient de... Mais non, mais parce qu'à un moment donné, c'est une vérité. On se rappelle que Samuel Eto'o n'a pas gagné le Ballon d'Or alors qu'il le méritait. On se rappelle du classement d'Yaya Touré alors qu'il aurait dû être dans les trois premiers. Il ne l'a pas été. On se rappelle du classement de Didier Drogba qui avait gagné la Ligue des Champions. Il n'était pas non plus dans les trois premiers. Donc à partir de là...
Mais pourquoi, Habib, selon...
Parce que je pense que le rayonnement d'une équipe nationale africaine n'est pas la même qu'une équipe brésilienne d'Argentine ou en France, et qu'à un moment donné, dans ce vote, il faut l'intégrer. Qu'est-ce que vous voulez faire? De toute façon, les équipes africaines jouent la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique n'a pas le même rayonnement qu'un championnat d'Europe.
Ni même que la Ligue des Champions.
Oui, mais après, ces joueurs-là brillent en Ligue des Champions. C'est ça qu'il faut regarder aussi. Lorsqu'on voit Sadio Mané, c'est le deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions. Donc, je pense qu'il devrait être récompensé beaucoup plus qu'un joueur qu'on voit comme Kevin De Bruyne, 9e. Kevin De Bruyne a été exceptionnel avec City, mais il a fait un match à la Coupe du Monde contre le Brésil. Les autres matchs, il a été aux abonnés absents. Il fait un très bon match contre le Brésil où il marque une frappe fantastique. Mais je trouve que parfois, il y a un grand écart entre certains classements et d'autres. C'est pour ça que je donne de l'intérêt au Ballon d'Or pour les 4 ou 5 premiers. Après, pour moi, c'est un petit peu à la loterie, quoi.
De toute façon, il y a un gouffre
après, c'est les voix qui se dispersent parce que tu sais qu'ils votent pour les 3 premiers. Puis après, il faut mettre un 4e nom, un 5e nom. Là, ils se font plaisir. Les 3 noms, c'est sérieux. Puis... Voilà, et en général, c'est très patriotique. Tu vois, les trois premiers noms, c'est objectif. Puis après, le 4e, 5e, si tu peux glisser.
Non, mais parce que on m'a interpellé sur le fait que je puisse dire que Salah aurait pu être devant Lionel Messi. On m'a dit, oui, mais Lionel Messi, il a gagné la Liga. Ça a été le meilleur buteur de la Liga. Ok, pas de problème. Mais lorsqu'on regarde la saison de Mohamed Salah, moi, je me rappelle qu'avant la finale, avant qu'il se blesse, tout le monde disait, Mohamed Salah, ça sera l'un des deux pour le Ballon d'Or.
Oui.
Et d'un seul coup, il finit 6e. Donc je me pose des questions aussi. Mohamed Salah, c'est le meilleur buteur de Première Ligue. Il a fait une saison extraordinaire. C'est un joueur qui a mis 10 buts en Ligue des Champions, qui a porté son équipe pour l'emmener jusqu'en finale de Ligue des Champions. Et d'un seul coup, il passerait de 2e, à parce qu'il s'est blessé sur cette finale, 6e. Et on trouve ça normal. Moi, je trouve que sur certaines saisons, il faut savoir... Après, peut-être regarder.
Il y a toujours Habib dans le vote. Le vote, il intervient au mois d'octobre. Hein, et il y a un aspect conjoncturel, c'est-à-dire que ce qui se passe à ce moment-là compte beaucoup.
Et c'est vrai que certains ont mal débuté la saison.
Voilà, certains perdent. On peut pas gagner le Ballon d'Or au mois d'octobre, mais on peut le perdre.
Moi, je demande pas qu'il le gagne.
C'est
plus dans le fait qu'aujourd'hui, je demande pas à ce que Salah soit devant. Je suis pas dans ces considérations-là. Je dis juste que souvent, un joueur africain qui joue dans une sélection africaine est beaucoup moins mise en avant par ce fait-là, et que du coup, dans ce classement, on se rend compte que il aurait pu être 4e, on se rend compte que ça dérange pas de la
même façon
8e.
Qu'on attend toujours qu'une équipe africaine aille très loin en Coupe du Monde.
Tu me l'enlèves de la bouche.
Il y a aussi ça. Ouais. C'est malheureusement.
Si le Ghana fait demi-finaliste à la Coupe du Monde 2010,
ça va être le Ballon d'Or, non?
Non, pas le Ballon d'Or. Mais déjà, le regard sur le.
Mais le regard, chérif, tu me dis ça. Samuel Eto'o, il avait été meilleur buteur du championnat d'Espagne.
Là, je te suis.
Il avait tout raflé.
Là, je te suis.
Et on lui a pas donné le Ballon d'Or. Pourquoi on lui a pas donné?
C'est juste une précision que j'apporte. C'est la petite pierre que tu peux rajouter à l'édifice. On parle des joueurs africains, on parle du football africain, des sélections africaines en Coupe du Monde. On était en année de Coupe du Monde.
Ouais,
le continent a déçu, on va être honnête. Le continent africain a déçu.
Oui.
La
Coupe du Monde pèse moins qu'avant
très
le Ballon d'Or, mais elle pèse quand même.
Mais là ça aussi, joue. Bien ça sûr. Joue. Après, Salah est blessé, pas de chance. Il est blessé avec l'Égypte, il ne peut pas jouer. Les Tunisiens déçoivent. Bon.
Tous déçoivent.
Il faut en tenir compte aussi.
Oui, mais pas autant de grands écarts. Voilà.
Bon, il y a les filles maintenant qui sont au palmarès. Elles reçoivent elles aussi un Ballon d'Or. La première, eh bien, c'est la Norvégienne qui joue à Lyon, Anna Hegerberg. Et cette année, ne l'oubliez pas, il y aura une Coupe du Monde en France, une Coupe du Monde féminine.
Juin prochain.
Voilà pour tout ce qui est du Ballon d'Or. Vous pouvez retrouver les informations sur notre site RFI.fr et aussi dans le magazine quand même de France Football.
Faudra choisir, Annie.
Qui met les lauréats.
Je vais vous tendre la perche. Il faudra choisir entre Coupe du Monde féminine et...
Et Coupe d'Afrique des Nations. Tiens. Le Cameroun 2019, on le sait depuis vendredi dernier, c'est fini, mais un nouveau logo et slogan doit être désormais créé, Cameroun 2021 et puis Côte d'Ivoire 2023. Et oui, du moins en écoutant le président Hamad, le responsable de la Confédération africaine, hier qui parlait de Kinshasa à la télévision Africa Média, une chaîne panafricaine, eh bien le président Hamad a expliqué que le COMEX, qui s'était réuni vendredi et dont on avait eu des échos vendredi soir, eh bien finalement, non seulement il retirait la compétition au Cameroun, mais il avait pris d'autres décisions.
Pour arranger les choses de manière vraiment humaine, allons décaler tous les cannes, donnons plus de chances au Cameroun, plus de temps pour qu'il réalise les infrastructures et on va les accompagner de près pour éviter aussi que ça ne va pas aller. On va les accompagner de près. En 2021, ils seront prêts. On organise la CAN au Cameroun et en 2023, on organise en Côte d'Ivoire. C'était la décision prise par le comité exécutif.
Alors c'était la décision aussi peut-être attendue, peut-être imaginée, Olivier Pron, vous qui étiez au Ghana, mais finalement, sur l'instant, en tout cas, les instances ne l'ont pas dit.
Oui, c'est vrai que c'était dans les tuyaux depuis de longues semaines, on l'a tous évoqué, on en a parlé ici, c'était à partir du moment où on retirait la CAN 2019 au Cameroun, on se doutait bien qu'on allait leur proposer de glisser à 2021 et que de fait, ça entraînait un jeu de chaises musicales. C'est vrai que ça n'a pas été dit clairement, j'en sais quelque chose, puisque après son allocution, son communiqué lu en direct vendredi soir. Il a pris 4 ou 5 questions parmi les journalistes qui étaient là. Et la première question, c'est un gars de RFI qui s'appelle Olivier Pron qui lui a posé et qui a dit « Est-ce que ça veut dire que 2021, le Cameroun, 2023 ?» Et la réponse n'a pas été claire. J'ai même insisté. En fait, la confirmation, parce que donc finalement, on le savait nous, la confirmation, elle est venue du deuxième vice-président de la CAF, Constant Marie, le Congolais, qui m'avait bien confirmé dans l'oreille, et ben, je regarde, que c'était ça l'idée. 2021-2023. On a même dit que des contacts avaient été établis et ces contacts-là, pour l'instant, ils sont, en tout cas du côté ivoirien, absolument niés.
Bah justement, parce que cette façon humaine, comme dit le président Hamad, de traiter et d'aider le Cameroun, eh bien, personne, en tout cas en Côte d'Ivoire, dit ne le savoir officiellement. Ils sont même surpris de la nouvelle et c'est ce qu'a confié le ministre des Sports ivoirien, Paulin Dano, au micro de Nadia Sweeney.
La manière cavalière dont cette démarche est faite n'est pas appropriée et la déclaration de monsieur le président de la CAF est faite de façon unilatérale et elle tente de jeter l'opprobre sur la capacité de la Côte d'Ivoire à tenir ses engagements et cela n'est pas acceptable. Il dit dans son propos que d'ailleurs la Côte d'Ivoire ne serait même pas prête. Comment est-ce qu'on peut préjuger 2 ans avant que nous ne pouvons pas être prêts tandis que nous avons mobilisé 300 millions d'euros, que nous avons mis en place un timing et que nous avons des inspections de la CAF qui nous a jamais attiré notre attention sur une quelconque défaillance. La défaillance du Cameroun est constatée. Nous sommes solidaires en tant qu'Africains de la CAF pour qu'il y ait des développements harmonieux du sport, le football en Afrique, qu'on ne jette pas l'opprobre sur les capacités de la Côte d'Ivoire à organiser ces événements, qu'on nous dise simplement qu'il y a des difficultés. Et comme nous sommes un pays de dialogue, nous sommes un pays solidaire de l'Afrique, nous analyserons sereinement la situation et nous aviserons.
Ouais. Voilà, pour ce qui est de la position de la Côte d'Ivoire, du côté du gouvernement.
À partir du moment où on accompagne le Cameroun vers une CAN future, c'est-à-dire celle de 2021, il est logique de demander aux Ivoiriens de décaler de 2 ans. Au fond, ça n'est pas si grave que cela. On ne retire pas la CAN à la Côte d'Ivoire. Hamad l'a bien dit et tout le monde le sait. Là encore, même si on est à 5 ans de l'échéance, les retards sont constatés. Il y a des retards importants dans la construction des stades. Et voilà, donc... au fond, ils se rendront sans doute compte. Leur réaction est assez logique, là. Ce qu'il y a de sûr, c'est que du côté de la FIF, la Fédération Ivoirienne de foot, on martèle, hein, on les a eu en ligne, que ce soit Sidi Diallo, Sori Diabaté, président, vice-président. Aucun contact n'a été établi par la CAF avec la Fédération Ivoirienne, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer ou ce qu'on a pu nous dire. Et ils disent, les mêmes, que c'est la même chose avec le cabinet du président Ouattara. Là encore, la CAN, quand elle annonce ce genre de choses, la CAF, quand elle annonce ce genre de choses, on a du mal à croire quand même qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas prévenu.
Habib, en tout cas, c'est une communication. Du coup, on a l'impression d'une deuxième déflagration après le comité exécutif. D'abord, on l'enlève au Cameroun et maintenant, en gros, on l'enlève pas aux autres, mais on décale. Et pour les pays, c'est compliqué, notamment politiquement.
C'est compliqué politiquement. C'est compliqué parce que on se rend pas compte, mais décaler une CAN de 2 ans pour des fonds qui ont été dégagés par un État ou par bon, c'est plus par un État que par des fédérations, mais par un État, c'est-à-dire que je pense que c'est des emprunts, donc il faut rembourser, que le remboursement à 2 ans ou le remboursement à 4 ans sur une compétition, c'est pas du tout la même chose, puisque concrètement, si vous dégagez des fonds pour justement construire ces stades, vous envisagez avec les recettes que vous allez récolter de rembourser justement ces fonds, bah au bout de 2 ans, là ça sera au bout de 4 ans, donc c'est pas du tout la même chose.
Et puis le
fait qu'on puisse entendre aujourd'hui que la CAF va accompagner le Cameroun, je pense qu'il y avait moyen de les accompagner bien avant ça et de se rendre compte qu'ils étaient en retard, qu'ils avaient des difficultés, et que maintenant qu'on est dans la difficulté, il faut jamais enlever du fait qu'il y a un aspect politique aussi, de ne pas supprimer cette CAN définitivement au Cameroun, ouais. De dire bon, on vous la redonne dans 2 ans, c'est qu'il y a un aspect politique. Ahmad ne veut pas se brouiller avec les gens qui peuvent le soutenir aussi. Je pense qu'il y a tout ça qui rend
en ligne de compte. Le foot en Afrique n'est que politique.
Oui, mais le problème, c'est que le foot en Afrique n'est que politique, mais ce qui arrive au foot africain et ce qui se passe en ce moment, en fait, nuit à tout ce qu'on a parlé, en fait, auparavant. C'est-à-dire que lorsque vous ne prenez pas un joueur africain ou lorsque vous prenez pas des nations africaines au sérieux, c'est aussi parce que les institutions en Afrique ne sont pas sérieuses.
Oui, alors ça peut retomber sur les joueurs.
Bien sûr que ça repense. En fait, c'est un petit peu un cercle vicieux.
Il y a aussi une chose que les Africains doivent entendre et que la CAF, ou en tout cas Ahmad, veut leur faire entendre, c'est que le temps des CAN prêt au dernier moment, c'est fini. Il en avait fait un argument de campagne. Il veut s'y tenir pour la première CAN qui va s'organiser sous son mandat. Il ne veut plus de CAN au dernier moment. L'expression qu'on a entendue le plus à Accra, c'est « il y en a marre le d'entendre auprès des Européens, des Occidentaux, ah bah c'est le charme de l'Afrique. Ils ne veulent plus de cette expression-là et veulent maintenant que les CAN, quand on les attribue en 2014, contrairement aux Camerounais qui ont commencé des chantiers en 2015, 16 ou 17, les chantiers commencent dès maintenant et qu'on soit prêt 6 à 9 mois avant. Et ça, il va falloir qu'on l'entende aussi en Afrique.
Shérif ?
Non, mais ça rappelle à l'ordre, justement, le président Ahmed en avait parlé dans son allocution. Comme il a parlé de l'image du football africain dans le monde, c'était ça. Maintenant, en plus, il y a un échéancier quand même. C'est pas, il y a un décalage, je dirais. Donc,
enfin, du point de vue de la Côte d'Ivoire, c'est quand même bizarre parce que
tout d'un coup, ils ont l'impression qu'on leur enlève.
Ils s'organisaient pour 2021.
Le problème,
2023. Pourquoi, à la limite, si le Cameroun n'est pas en capacité de le faire, il aurait pu passer son tour et puis prendre ça pour 2023.
C'est aussi un avertissement.
Ce qui se passera.
Voilà. Et c'est aussi un avertissement.
Il y a quand même une impression de l'extérieur. On a l'impression que c'est comme le Tour de France, quoi. À la CAN, l'organisateur est plus l'organisateur, et puis au Tour de France, le vainqueur et plus le vainqueur finalement avec les contrôles a posteriori. Enfin, il y a quand même un côté, c'est jamais figé, c'est jamais gravé dans le marbre, ça peut changer.
Bah, il y a le fond et la forme. Sur la forme, évidemment, on se met à la place de la fédération ivoirienne, faut encaisser le coup. Mais au niveau du fond, c'est-à-dire s'ils se tiennent vraiment à cette discipline d'organisation, d'être prêt dans les délais, avec l'avertissement qui a été lancé à toutes les fédérations en fait de l'Afrique.
Oui.
C'est pas plus mal.
Mais à 24, surtout, c'est une énorme organisation aussi qui va devoir être mise en place, parce que passer de 16 à 24 maintenant pour tous les 2 ans, ça veut dire tous les 2 ans, il faudra qu'un pays soit prêt pour accueillir 24 équipes. C'est peut-être
stades.
Beaucoup.
Mais là, c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient accompagnés. Je pense que lorsque le président Ahmad dit on va les accompagner, il faut qu'il y ait justement ce support de la CAF absolument pour ces nations, pour pouvoir organiser l'événement de la meilleure des façons.
Le ministre, quand on entend la fin de la déclaration du ministre, on se rend, il est très très en colère au début, nettement moins à la fin. Ça c'est un peu on bombe le torse, on va pas se faire dicter ce qu'on doit faire par la CAF. Et au fond, je peux vous dire que, enfin, vraiment, le sentiment général à Accra, vendredi, avec tous les médias qui étaient là et tous les gens qui étaient là, les observateurs, c'est, tout le monde se disait, finalement, 2 ans de plus pour le Cameroun, c'est pas plus mal, et 2 ans de plus pour la Côte d'Ivoire, c'est pas plus mal aussi.
Ceci dit, ça met aussi la pression pour l'organisateur de 2019. Qu'on connaît pas.
Lui, il sera tenu à pas grand chose, puisqu'il sera, sauver les meubles. Donc,
lui, a priori, il a plus rien à construire.
Après, il faut peut-être pas méconnaître l'hypothèse de passer à une périodicité tous les 4 ans, parce qu'on disait tout à l'heure que la CAN, c'était moins important qu'un euro.
Jamais, ça. Surtout pas.
Non, mais. Ça a été conçu tous les 2 ans justement pour permettre de créer des infrastructures, de construire des stades. À un moment, on en aura quand même dans pas mal de pays. On peut peut-être se dire que a raréfié un peu la périodicité de la compétition, la revalorise, surtout
quel
quand elle est à 24.
Quelle pays subsaharienne va pouvoir organiser dans de bonnes conditions une CAN à 24? C'est la vraie question qu'on s'est posée le jour où on est passé de 16 à 24, sans doute beaucoup trop rapidement. Encore une fois, on verra, on sait tous a priori que ça va pas élever le niveau et que
peut-être une co-organisation.
Des co-organisations, parce qu'encore une fois, 6 stades, c'est quand même énorme, sachant que 5 d'entre eux ne serviront plus à rien dans les mois qui suivront la CAN. En général, ça se passe comme ça. On va construire 2 fois plus d'éléphants blancs qu'il n'y en a déjà sur ce continent. Voilà, c'est aussi une des questions. Mais enfin, voilà, là, le problème, c'est de savoir où on va jouer.
Bon, en tout cas, on attend des éclaircissements et peut-être que le président Hamad nous en donnera vendredi.
Pourquoi peut-être ? Nous le questionnerons et nous le soumettrons à la question vendredi, Annie.
Vendredi, dans Radio Foot International, et soyez à l'écoute.
Dembélé se parará que distrace la pared, toma la carrera de Dembélé puede encarar a Víctor Ruiz, ahí está Dembélé, la mete para Leo balcón del área. Fuera de juego de Dembélé, corre tanto.
Sí.
Muy bien Dembélé,
Dembélé, muy bien, il n'a pas marqué, mais le numéro 11 du Barça s'est fait remarquer ce week-end, et en bien cette fois, Ousmane Dembélé, titulaire pour cette victoire des Blaugrana, 2-0 sur Villarreal, ce qui permet eh bien, au FC Barcelone de reprendre la première place du championnat d'Espagne, en champion en titre, rappelons-le, hein, les joueurs de Barcelone. Et Ernesto Valverde, vous allez l'entendre, alors lui qui dirigeait son 400e match de sa carrière hein, en Liga, eh bien, Ernesto Valverde était très content de son attaquant.
Ça a été un grand partido. La verdad que ha sido.
Ousmane a fait un super match et je pense qu'il a été notre meilleur joueur aujourd'hui. Il a beaucoup de qualités. Il peut ouvrir une défense, il peut dribbler, il peut tirer. Il est rapide. Il a confiance en lui et il n'a peur de rien. On espère que ce n'était pas juste un match comme ça et qu'il pourra faire cela tous les autres matchs.
Alors là, il n'a pas marqué, mais quand même, en huit matchs, alors il y a eu 13 matchs déjà en Liga, mais il a été 8 fois titulaire, 5 buts marqués. C'est un bon Ousmane Dembélé, vous aussi, vous avez vu, Sheriff Gaymour, ce week-end.
C'était surtout ce moment-là qu'il fallait revenir parce que Suarez n'était pas là, il n'a pas joué. Donc une ligne d'attaque, on lui fait confiance titulaire sur le côté droit. Et sur ce que j'ai vu, j'ai pas vu le match entier, hein, mais sur ce que j'ai vu, il a apporté la bonne réponse au bon moment, c'est ça qu'on peut dire. Et même le centre, hein, je veux dire, bon voilà, il déborde côté droit, il fait un centre du gauche et tout parfait sur la tête de piqué, mais le centre est parfait, le geste est parfait.
Après, on sait qu'il y a d'énormes attentes à Barcelone autour de ce joueur.
Le prix du transfert déjà.
Donc, voilà,
il y a d'énormes doutes aussi. Voilà.
Et il y a des doutes qui sont entretenus quand même par son comportement ces derniers temps, enfin jusqu'à 15 jours, où il y avait des retards à entraînement, des absences.
Affaires à Dortmund aussi.
Voilà, donc, et c'était pas la première fois, et on sait qu'il est coutumier du fait. On a l'impression qu'il s'amende pas et qu'il se corrige pas. Quoi. Alors, bon, plus il grimpe en statut, il change pas son comportement. Donc c'était relativement inquiétant, il était un peu désigné du doigt. Et là, moi, j'ai le sentiment, c'est que Valverde surjoue un petit peu la flatterie.
C'est pas la première fois d'ailleurs depuis le début de saison.
Parce que, sûrement, il a été recadré, il a peut-être fait amende honorable en interne. Enfin, on n'a pas entendu depuis 15 ou 3 semaines de problème avec Dembélé. Là, il fait un bon match. Bon, on lui donne un bon point publiquement, c'est quand même assez rare quand même de valoriser comme ça spontanément un joueur.
Il l'a déjà fait depuis le début de saison.
Mais on surjoue un petit peu les compliments pour lui dire tu vois garçon là c'est bien là continue comme ça on va continuer à te valoriser. Il y a un petit côté comme ça de com je trouve.
Oui mais celui qui a pu lui faire de bien aussi c'est Deschamps parce qu'il faut savoir que lorsqu'il est parti en sélection Deschamps l'a mis de côté avec lui et lui a parlé par rapport à son hygiène de vie par rapport à l'exigence du très très haut niveau. Il l'a tensé dans les médias en public, ce que fait très rarement Didier Deschamps. Ouais. Il l'a fait aussi avec Benjamin Mendy. Et donc à partir de là, je pense que lorsque vous êtes champion du monde et que vous êtes dans un groupe qui vit ensemble et que un sélectionneur vient vous voir en vous disant, écoute, si tu continues comme ça, t'as beau être champion du monde, tu sortiras de ce groupe. Ça vous alerte en quelque sorte, parce que je pense que Dembélé a une seule envie, s'il ne joue pas à Barcelone, c'est d'être en équipe de France pour pouvoir passer de bons moments. Donc à partir de là, je pense que Deschamps lui a fait beaucoup de bien, parce que depuis qu'il est revenu de cette sélection, il enchaîne les bons matchs avec Barcelone. Et puis, encore une fois, s'il arrive à rentrer dans les clous, qu'il ne se blesse pas, c'est un joueur extraordinaire de qualité, donc il l'apportera forcément au Barça.
Habib, justement, la question aussi qui tourne autour d'Ousmane Dembélé, en dehors de ses écarts de conduite, ensuite, est-ce qu'il peut devenir un Blaugrana, c'est-à-dire se mettre dans cette équipe, dans cet état d'esprit surtout de ce club, de cette possession, d'être aussi quelqu'un de très généreux envers ses partenaires,
Barça.
Exactement.
Ben, tous les joueurs qui sont passés par ce système Barça et qui n'ont pas su y résister, ce sont des joueurs individualistes. Pourquoi Suarez aujourd'hui est si bon, c'est qu'il s'entend très très bien avec Messi et qu'en quelque sorte il a accepté d'être au service de Messi.
C'est comme Neymar. Comme Neymar.
Prenez Ibrahimovic, il a pas voulu se mettre au service de Messi.
Hop.
Il est sorti. Prenez par exemple un autre joueur qui était Thierry Henry, qui était un petit peu pas forcément dans cet aspect de collectif. C'est Pedro qui a pris sa place et il est aussi sorti de cette équipe.
Il fait une saison complète quand même.
Ouais, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que veulent le Barça, c'est avoir cet aspect collectif,
mais
surtout au service d'un homme,
ouais.
C'est Lionel Messi. Et ouais. Que pour l'instant, Ousmane Dembélé, dans son aspect, dans son jeu, est beaucoup plus individualiste. Et on a vu que ça pouvait agacer Lionel Messi parfois. Même si je pense qu'il a malgré tout de la sympathie pour le joueur, je crois qu'il va falloir le formater en quelque sorte
aussi. C'est pas la fin de l'histoire. C'est pour ça que je pense que dans la déclaration de Valverde, il y a un peu de volontarisme comme ça. Dire voilà la direction, c'est bien. Mais je pense que même sont pas assurés que ça, Dembélé finira la saison.
Non, moi j'ai des doutes.
Sans accro. Hein.
J'ai des doutes. Enfin, les doutes de Dembélé. La discipline tactique de s'insérer dans le système Barça, c'est très très. C'est très exigeant, faut défendre, faut se mettre au service de Messi, tu l'as dit, faut toujours savoir se positionner avant de recevoir le ballon. Les coups d'éclat, ça peut servir, le jeu vertical, le jeu de contre de vitesse et de profondeur, il y a rien à dire là-dessus. Faut marquer régulièrement aussi quand on est attaquant, c'est conseillé au Barça. On peut être attaquant de soutien, mais c'est aussi bien de marquer. C'est ce qu'avait compris Thierry Henry. Thierry Henry est troisième meilleur buteur quand il joue avec Messi et puis troisième, j'ai oublié, enfin peu importe. On demande aussi à participer au jeu, à défendre et à marquer des buts. On n'en est pas encore là.
Il faudrait qu'il discipline sa tête d'abord. Je crois que le problème de ce garçon, c'est d'ordonner un petit peu et d'avoir une vie extra sportive,
surtout au Barça, un peu
plus saine. On va dire ça, un peu plus respectueuse. On va dire des endroits où il habite, des gens qui l'entourent. Devenir un grand garçon et plus un sale gosse à qui on a envie de mettre une paire de baffes.
On a pardonné
parce qu'il fait mal.
Voilà, on a pardonné à Ronaldinho, mais que Ronaldinho. Oui. Alors Maradona, sa vie de patachon, non, ça, il a fait un an, on l'a viré.
Oui, mais Ronaldinho aussi, en quelque sorte, parce qu'aujourd'hui, quand tu vois Ronaldinho, ça aurait dû être 4-5 ballons d'or.
Bah ouais, après, c'est Ronaldinho.
Ouais, mais malheureusement,
l'hygiène
de vie aujourd'hui, tu peux me dire ce que tu veux.
Ouais.
Peut-être que Neymar finira sans ballon d'or, ce qui est quand même assez incroyable au vu du talent du garçon.
Ouais.
Neymar a fini 12e du ballon d'or.
Ouais.
12e.
Ouais. Vous avez dit qu'après le 5e, ça compte plus.
Non, mais.
Alors qu'il y avait une quête individuelle de reconnaissance individuelle.
Bien sûr,
c'est
vrai qu'il est ici. Bien sûr.
Oui, mais c'est pas étonnant. Vous nous avez dit qu'il joue un match sur 3 au Paris Saint-Germain.
Oui, il joue un match sur 3.
Il est
souvent blessé, il voyage beaucoup pour ses sponsors, mais qu'à un moment donné, l'hygiène de vie, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de mensonge dans le foot. Hein.
Chérif.
Oui, non, parce que Neymar, c'était le successeur désigné de Messi et Ronaldo. Mm-hmm. Mais il n'est pas au rendez-vous. C'est tout
pour l'instant. En tout cas, il y avait des rumeurs quand même. On disait que peut-être que le Barça vendrait ce joueur à l'intersaison, c'est-à-dire au mercato d'hiver. Est-ce que l'idée est complètement écartée selon vous, Jean-Philippe?
Je pense qu'effectivement, c'est aussi comme ça qu'il faut prendre le message.
Ils ont besoin de lui aussi quand même, non?
Il a coûté cher surtout.
Là, l'idée, c'est vraiment de réussir son intégration et c'est pas encore fait.
Voilà. Mais le problème, c'est qu'ils ont pas le...
En meilleure voie qu'au mois de septembre, mais c'est pas encore
ils ont
fait.
Pas le troisième bis. C'est-à-dire que s'il y a un absent entre Suarez et Coutinho ou Messi, ils ont pas ce troisième bis. Rappelez-vous, au début de saison, ils avaient commencé avec Deulofeu, qui était en dessous de ces joueurs-là, qui est parti d'ailleurs. Et que, mine de rien, lorsque vous avez un Suarez, un Messi ou un Coutinho qui est moins bien, c'est quand même pas mal d'avoir Ousmane Dembélé. Donc je suis pas sûr qu'il puisse le vendre sans séparer, sans forcément trouver.
Ouais, et puis moi je pense qu'il y a aussi un investissement pour l'avenir, c'est qu'il y a au vu du talent de Dembélé, on peut penser qu'il sera l'un des successeurs. Donc là-dessus c'est aussi ça que joue le Barça, c'est de réussir complètement
le préparer.
Le Barça c'est pas un club où on reste un an, enfin si on reste qu'un an au Barça, c'est qu'on a loupé son intégration quoi. Donc le Barça, il y a pas beaucoup au-dessus quand même en termes de donc quand on y est et qu'on est titulaire et reconnu, on y reste globalement. Donc
mais là c'est déjà sa deuxième année.
Ouais, mais sauf que on n'est pas encore complètement rassuré. La première année, il se blesse 6 mois, mais là on n'est pas encore rassuré sur son avenir.
Hein. Oui,
il a pas
première
encore
année,
gagné ses galons.
On a envie que la deuxième, alors, c'est pas de sa faute s'il se blesse, mais
il démarre super bien.
J'aurais tendance à se dire la deuxième je vais tout donner
et il a tout donné au début
oui il a tout donné
c'est pas sa faute s'il se blesse c'est une blessure musculaire qu'on a lié quand même à son hygiène de vie, ouais, puisqu'on lui a fait changer de cuisinier, on l'a fait changer de nutritionniste, on lui a mis piqué apparemment
comme coach
de vie. Plus dur de lui changer de cerveau.
Donc à partir de là, oui, il s'est blessé, mais c'est aussi lié à son hygiène de vie.
Alors quelque chose d'important quand même aussi pour ce Barça, c'est on parle de Piqué, il a marqué son deuxième but en deux matchs, ce qui est amusant pour un défenseur, mais surtout le Barça, Chérif a encaissé zéro but et ça faisait 11 matchs que cette équipe systématiquement encaissait au moins un but. Est-ce qu'il y a enfin un mieux, alors qu'on sait que par ailleurs Umtiti est toujours blessé et que au moins jusqu'au mois de janvier il reviendra pas.
Umtiti est toujours blessé. C'est plus non plus le jeu de possession qu'ils avaient avant, en fait, parce qu'avant ils défendaient en attaquant, en s'installant dans le camp adverse. C'est l'équipe qui est plus vulnérable. Et c'est pas non plus un hasard si depuis 2015 ils gagnent plus la Ligue des Champions. Il y a un équilibre qui s'est rompu. Ça reste toujours une super équipe. Il y a rien à dire. Ils ont les individualités qu'il faut. Mais au niveau de l'équilibre, c'est-à-dire entre l'attaque et la défense, ils ont perdu quelque chose, donc ils prennent plus de buts, ils se mettent plus en difficulté, les temps forts sont moins nombreux, moins intenses. Et voilà quoi. Ceci dit,
ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, on a l'impression que ce Barça n'est plus flamboyant, c'est-à-dire qu'on n'est plus ébloui par le jeu du Barça. Mmh. Avant, on regardait le Barça pendant 90 minutes et on se disait, on vient de prendre une leçon de football, on a adoré, on pourrait même le regarder encore. Et puis là, c'est un petit peu plus pragmatique avec Valverde. Et ce qui est assez incroyable, c'est que parfois ils explosent. Et si on se rappelle l'année dernière en Ligue des Champions, où ils gagnent 3-0 contre la Roma et qu'ensuite ils explosent au match retour, c'est que cette équipe n'est plus aussi dense, ne vous impose plus autant de rythme qu'il le faisait par le passé. Et si par exemple c'est un jour où Messi est moins bien, un jour où Suarez est moins bien, bah ils sont à la limite et ils prennent des buts. C'est vrai,
et puis il y a un peu moins de lion dans le jeu, et c'est vrai que Iniesta n'est plus là, quoi. C'est quand même un régulateur, c'est super important.
Surtout au niveau de l'équipe, c'est le déclin de Busquets. C'est lui qui tenait l'équipe avant. Bah, évidemment, pas au niveau de l'organisation. Je veux dire, le point d'équilibre entre l'attaque et la défense, et y compris aussi avec l'équipe d'Espagne, il y a le déclin de Busquets, on le voit. Il ratisse moins, il se projette moins. Et comme c'est lui qui assurait à la fois l'équilibre la jonction entre l'attaque et la défense, il est sur le déclin. Je dis pas qu'il est fini, mais il est sur le déclin.
Une dernière petite chose quand même, parlons
ça arrivera avec Casemiro. C'est ça que je veux dire, c'est que ça arrivera sûrement avec Casemiro. Le jour où Casemiro va vraiment décliner, on va voir que le Real ne sera plus le Real.
Bon, alors le Real, pour l'instant, il revient quand même au classement.
Toujours cinquième. Hein.
Eux aussi, victoire 2-0, toujours cinquième. C'était sur Valence, mais surtout, ils sont quand même cinquième à 5 points du premier, du Barça. Donc on sait bien que.
On a un super championnat d'Espagne, très très resserré, très indécis, beaucoup de suspense. Ça, c'est chouette.
Ça le reste.
Pour moi, ça reste le meilleur championnat du monde, toujours. Ça, pour moi, à mon niveau, qui a gagné les deux coupes d'Europe l'année dernière,
pas forcément en homogénéité, mais sur l'élite de ce championnat, sur les 7-8 premiers, c'est effectivement
toutes les équipes jouent.
Sur les matchs chaque week-end aussi, parce que c'est ça aussi le championnat.
L'avant-dernier match que j'ai vu du Real, c'était une petite équipe. Enfin, j'ai oublié.
Eibar.
Ouais, mais ils jouent, ils continuent de jouer, ils sont menés, ils mettent ce Real en difficulté. Moi, tous les matchs que je vois de Liga, parce qu'après, faire des choix, on est français, il faut garder la L1. Mais
Non, on n'est pas obligé du tout. On peut considérer que l'Espagne, au vu de tous les titres gagnés du suspense, c'est le meilleur championnat. On peut aussi aimer la Première Ligue, qui est quand même extrêmement spectaculaire, généreuse, avec des matchs entre le 17e et le 18e qui peuvent être emballants, des derbys de Londres qui peuvent être emballants, des derbys de la Mersey qui sont tout autant.
Mais
ces deux championnats-là sont très en avance.
Derby Londres, c'est entre les meilleurs. Vous le savez, River Boca, le match retour.
C'est quand ? Je suis l'arnaque.
Alors théoriquement, c'est dimanche soir.
Mais ils veulent pas. Entre Shanghai et Macao.
Mais les équipes arrivent sur place. Alors quand même, ils sont obligés, sinon ils vont perdre ce tapis vert. À savoir que Messi et Cristiano Ronaldo ont demandé des places pour être à Bernabéu. Comme quoi, finalement.
Le réfé
aussi. Alors réfé, il nous le dit pas, mais il nous passe les infos. Par contre, merci beaucoup d'avoir participé à ce Radio Foot International. Merci aussi à Louis Lafargue qui m'a aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno était à la réalisation aujourd'hui et on vous dit à demain. Merci à tous.